Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Bruno Perrot, bonjour.
Bonjour.
Je suis très heureuse de vous recevoir à l'antenne de l'Union rationaliste lors de votre venue à Paris pour la sortie de l'ouvrage que vous avez co-dirigé avec l'historienne John Scott et qui vient de paraître aux presses de Sciences Po, intitulé « Les défis de la République, genre, territoire, citoyenneté ». Alors, Bruno Perrot, j'avais eu la chance de vous recevoir à l'antenne en 2012 pour la sortie de votre livre
« Penser l'adoption ».
Voilà, vous êtes un spécialiste de l'homoparentalité et de l'adoption. Et vous travaillez au MIT, où vous êtes titulaire de la chaire Cynthia Reed en French Studies, ce qui vous permet de travailler sur les sujets qui sont les vôtres, notamment sur le genre, la politique, l'adoption.
Absolument.
Alors, dans cet ouvrage sur lequel nous allons réfléchir maintenant, « Les défis de la République », vous interrogez l'universalisme républicain qui constituerait selon vous une résistance au changement du combat des femmes et des minorités. Et vous faites le pari qu'il faut partir des conditions qui rendent possibles les changements, les métamorphoses dans la République et qu'il faut donc étudier ces conditions qui rendent possible ou la parité, ou l'action positive, ou l'inversion de la charge de la preuve, ou l'égalité dans l'accès à l'espace public, pour faire bouger précisément la République. C'est donc à des changements de point de vue et de façon de militer que vous nous invitez. Et ce sont ces changements qui, selon vous, et c'est ma première question, peuvent renforcer la République ?
Je dirais pas tellement renforcer la République, pas même que je ne dirais la saper, mais plutôt la rendre plus critique, la rendre plus hospitalière, plus riche d'expériences multiples. Le point de départ de ce livre, « Les défis de la République », était une sorte d'inconfort que John Scott et moi ressentions envers la rhétorique du changement en politique, qui est évidemment très présente aujourd'hui en phase de campagne électorale.
Absolument.
Le changement, c'est maintenant, c'est demain, c'est après-demain. Et au fond, il existe déjà des pratiques politiques, sociales, qui transforment déjà la République, parce qu'elles mettent en place des politiques publiques qui s'appuient sur la question du temps dans le rapport aux institutions publiques, sur la gestion de l'espace, bref, qui cherchent à trouver d'autres façons d'intervenir dans le droit et d'en transformer les pratiques. Et puis, c'était aussi un livre qui, d'une certaine façon, appelle à être plus critique dans l'usage de la République, parce que la montée des mouvements réactionnaires conduit à une sorte de transformation de toute la rhétorique de l'appartenance, y compris à gauche. Lorsque la Manif pour tous occupe l'espace public, elle produit un certain type de discours auquel la gauche se sent presque obligée de répondre et finit par infléchir ses propres préoccupations. Donc on est dans une phase, et c'est la même chose aux États-Unis avec l'élection de Trump, où l'idée selon laquelle les questions qui touchent aux femmes, aux résidents étrangers, aux minorités sexuelles, raciales, religieuses, seraient des questions de second plan, est au fond ce qui est importé des mouvements réactionnaires. Il faut impérativement résister à cela. Le mariage, c'est une question sociale, c'est une question économique.
Et politique.
Et politique. Donc opérer ce type de hiérarchie est aussi ce contre quoi nous essayons de penser.
Donc d'une certaine façon, contre cet universalisme abstrait qui nie le rapport à certaines revendications.
Oui, qui en tout cas promeut en quelque sorte un modèle unique d'appartenance.
Alors, vous invitez à lire cet ouvrage qui est, je le dis, un ouvrage collectif, avec trois fils conducteurs que j'aimerais bien que vous éclaircissiez. Celui des classifications des représentations genrées, qui sont au cœur, dites-vous, du modèle républicain, et qui ont été et sont encore l'objet de débats. Le deuxième serait celui de ce que vous appelez les connexions ou les échanges entre normes juridiques et pratiques sociales. Le troisième, celui des limites de l'action publique. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclaircir ces fils ou ces axes ?
Je crois que le plus simple est de donner quelques exemples et élaborer à partir de ceci. Les représentations genrées qui sont au cœur du modèle républicain, c'est quelque chose que de nombreux historiens, historiennes et philosophes ont mis en lumière. Je pense au livre de Geneviève Fraisse, par exemple, Muse de la raison, qui montre très bien comment les principes du gouvernement républicain ne se sont pas construits en quelque sorte en mettant de côté les femmes, une sorte d'exception, mais sur le fait même de les exclure. Au fond, nous essayons de montrer que ce type d'exclusion est toujours présent aujourd'hui dans les pratiques politiques et sociales. Par exemple, l'idée de nature est au fond aujourd'hui très présente dans la façon dont on pense la famille. L'allergie en France, qui est très surprenante depuis l'étranger envers la gestation pour autrui, la gestation pour autrui pensée dans un cadre éthique, encadrée financièrement, est liée au fait que la notion de nature qui sépare le gouvernement d'une part, et puis le naturel, c'est-à-dire du côté desquels les femmes sont mises, reste très présent aujourd'hui. Au fond, c'est difficile d'imaginer, de concevoir qu'une femme puisse accoucher d'un enfant qui ne sera pas le sien. Donc voilà, là, un exemple très concret, en quelque sorte, de la façon dont dont circulent toujours des représentations genrées dans nos politiques publiques.
Absolument. Premier exemple très éclairant. Maintenant, sur celui des connexions ou des échanges entre normes juridiques et pratiques sociales.
Alors, il y a un article dans ce livre de la sociologue Jacqueline Hennen qui travaille sur les politiques publiques du genre au niveau local, c'est-à-dire comment on favorise l'égalité entre hommes et femmes au niveau local. Et elle montre très bien qu'il ne suffit pas d'intégrer cette catégorie, de l'ajouter aux catégories juridiques habituelles pour produire de l'égalité. Il faut faire beaucoup plus, il faut articuler le droit et les pratiques. Une des façons de le faire, c'est d'inclure dans l'évaluation des politiques les groupes féministes eux-mêmes. Lorsque des femmes intègrent une institution, la sociologie montre très bien que ces institutions tendent à perdre du pouvoir. Soit qu'elles sont mises de côté, soit qu'elles perdent certaines de leurs prérogatives. Donc il y a des formes de ruse dans la promotion de l'égalité contre lesquelles il importe de résister. Et pour résister, il faut impérativement inclure les protagonistes de ce combat pour l'égalité dans la fabrique et l'évaluation des politiques publiques.
Ça me paraît extrêmement clair. Enfin, celui des limites de l'action publique.
Alors, sur les limites de l'action publique, au fond, c'est une question qui est presque plus générale. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de cette notion de genre ? Qu'est-ce qu'on fait pour la rendre mobile, fluide, critique, sans que celle-ci ne s'enquiste en quelque sorte, sans que celle-ci devienne, par exemple, un synonyme pour femme ?
Oui.
Eh bien,
et qu'elle garde sa charge critique.
Absolument. Alors ça, c'est une chose dont on parlera peut-être plus tard, mais c'est le travail de Françoise Gaspard qui est à l'origine de ce projet, dont la trajectoire est à l'origine de ce projet, qui est une des personnes qui a participé au développement du concept de parité et puis surtout de sa mise en politique, et qui, devant les résistances à ces dispositifs paritaires, a dû en quelque sorte avoir un combat politique d'avance, c'est-à-dire inventer d'autres formes de parité. Alors, pour dire les choses très rapidement, la parité, lorsqu'elle fonctionne sur des listes, l'alternance homme-femme ou femme-homme a évidemment un impact sur le nombre d'élus. Le fait que les femmes soient placées en tête de liste dans des circonscriptions plus difficiles à gagner a également un impact sur la parité, ce qui explique que malgré l'existence d'un dispositif paritaire en France, celle-ci soit insuffisante dans les faits.
Donc, moins représenté.
Gaspard a par exemple proposé un dispositif binominal, scrutin majoritaire aux élections départementales, de telle sorte à ce qu'il y ait deux sièges à attribuer par circonscription et donc toujours
Un siège pour une femme.
Un siège pour une femme. Donc, il s'agit en quelque sorte, en pensant les limites de l'action publique, d'ouvrir de nouveaux fronts, mm-hmm. de toujours avoir un combat d'avance, mm-hmm. pour que le genre ne se referme pas sur lui-même.
Bien sûr. Venons-en donc tout de suite à cet hommage, famage. Je suis toujours embarrassée avec le mot hommage et son caractère genré. Bon, cet hommage que vous rendez à Françoise Gaspard pour le caractère décisif et singulier de son action politique et qui vous paraît très emblématique des défis que la République doit relever. Est-ce que, en dehors de cette revendication que Françoise Gaspard a obtenue, vous pourriez dire ce qui, dans son itinéraire politique et militant, fait de son œuvre, travail, quelque chose d'emblématique d'un défi républicain?
Bon, il me faut évidemment commencer en disant quelques mots sur la trajectoire de Françoise Gaspard.
Bien sûr.
Elle-même, elle est énarque, agrégée d'histoire. Elle a été donc, en tant qu'énarque juge administrative, une des plus jeunes députées et députées européennes dans le premier Parlement européen. Et elle apparaît vraiment sur la scène nationale pour le plus grand nombre au moment où elle est élue maire de Dreux. Et on sait que c'est en 1983 que pour la première fois le Front National a fait une alliance locale avec le RPR, c'est-à-dire le parti gaulliste, contre sa propre candidature. Par ailleurs, elle a une carrière universitaire. Elle a été maîtresse de conférence à l'école d'études en sciences sociales.
Le HESS.
Exactement. A travaillé comme experte auprès de nombreuses institutions internationales, alors européennes bien sûr, le comité des communes et des régions, où elle a promu des rapports sur l'égalité dans les villes, mais aussi surtout auprès du comité CEDAW, qui est le comité de l'ONU pour l'élimination de toutes les discriminations envers les femmes. Et donc, à ce titre, elle a développé des réseaux internationaux très larges et a pu promouvoir la parité dans d'autres pays. C'est une des raisons pour lesquelles il y a, par exemple, plus de 60% de femmes représentées au Parlement au Rwanda. Donc, elle a, et c'est la raison pour laquelle sa trajectoire nous a beaucoup intéressés et nous a semblé emblématique,
oui,
pour désormais répondre directement à la question, elle a un parcours qui est d'une grande habileté stratégique, sans l'ombre d'un doute, sachant à la fois faire des coups médiatiques quand c'est nécessaire. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi dans la notion de parité.
Bien sûr.
Un concept qui, en tant que tel, est rhétoriquement porteur, mais aussi savoir promouvoir l'égalité en creux des pratiques habituelles. Par exemple, tout son travail d'expertise au sein de l'Union européenne. Et puis, elle connecte à la fois des réseaux très divers, on le disait, universitaire, administratif, associatif. Elle a travaillé aux côtés de l'association AIDE, la Ligue des droits de l'homme, et puis plusieurs niveaux de décision. C'est pour cela aussi qu'on parle de territoire dans ce livre.
Comme si le travail de Françoise Gaspard et son efficace ou son efficacité était emblématique de ce dont on aurait besoin aujourd'hui.
Oui, exactement. Une façon de promouvoir une pratique politique et intellectuelle qui s'éclairent l'une l'autre.
Bien sûr, dans le rapport de la théorie à la pratique. Alors, ma troisième question porte sur le plan de l'ouvrage que vous avez choisi, un plan binaire. Dans la première partie, l'ouvrage s'intitule « Le fratriarcat et les frontières de la citoyenneté ». Est-ce que vous pouvez expliciter ce titre ? Et la seconde, beaucoup plus claire, intitulé « Parité à tous les niveaux ». Alors, j'aimerais bien peut-être que vous éclairiez le premier moment.
Alors, la notion de fratriarcat est une notion que Françoise Gaspard a travaillée elle-même. Donc c'est
un concept gaspardien.
Exactement. Et qui, au fond, analyse un aspect qui est trop souvent ignoré dans les rapports de domination politique et sociaux. Le patriarcat, c'est une société qui est dominée par l'autorité du père. Et d'ailleurs, le droit de la famille en a donné un exemple flagrant en France, puisque jusqu'à la fin des années 60, l'autorité du chef de famille est juridiquement consacrée. Mais derrière la réduction de cette autorité dans les principes et dans le droit, a perduré des pratiques où les représentations de l'autorité, au fond, s'articulent toujours à l'image fantasmée du père. Le père est toujours présent, presque sous forme, on pourrait dire, totémique. On se réfère au symbole du père dans la façon dont on exerce l'autorité. Et c'est ainsi que se met en place une société où les frères, entre eux, partagent le pouvoir, l'échangent et tentent de reproduire l'autorité du père absent parfois et puis présent aussi, parfois aussi. Je crois que l'élection de Trump est un très bon exemple. C'est que Trump a basé sa campagne sur l'idée qu'en tant que père, il pouvait rompre avec la loi, qu'il avait la possibilité d'être hors la loi. Et c'est comme cela qu'il a en quelque sorte assis son autorité et obtenu le respect des frères qui l'entouraient.
Donc dans la République, il s'agirait de critiquer le fratriarcat.
Absolument.
Bon, peut-être un mot, Bruno Perrot, un dernier mot sur cette façon en rationaliste d'aborder une critique d'un universaliste abstrait dans la République. Est-ce que cette démarche-là vous paraît elle-même rationaliste ?
La rationalité, au fond, il me semble qu'elle ne saurait être que critique. On pense toujours contre soi-même. Et le travail que l'on... Le défi, au fond, qu'on relève, le défi des défis de la République, c'est de penser les limites de l'universaliste abstrait quand celui-ci invite à s'abstraire de soi. C'est-à-dire qu'on ne valorise en quelque sorte qu'un rationalisme de surface. Penser la façon dont on s'ancre dans des identités, dans une histoire, relève au fond d'une valorisation d'une pensée rationaliste.
Je suis entièrement d'accord avec cette proposition. Donc, on invite les rationalistes à réfléchir sur les conditions matérielles de l'existence. C'est sur ces derniers mots que nous allons clore cette émission. Bruno Perrot, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Je rappelle le titre de l'ouvrage de Bruno Perrot et John Scott, ouvrage collectif paru aux presses de Sciences Po. Les défis de la République, genre, territoire, citoyenneté. Je renvoie aux différents numéros de Raisons Présentes que nous avons publiés sur le genre. Je remercie Dany Journaud et Bruno Gallienne qui ont rendu possible cette émission et je vous dis au mois prochain.